Bonjour. Effectivement, ce matin, je vais méditer sur un texte où on est tous réunis. Alors, comme vous savez, Noël, c'est le temps où on peut ouvrir notamment des cadeaux. Dans ma famille, là, j'ai trois enfants, trois petits-enfants entre 4 et 9 ans. On a dû avancer la date de Noël, de notre Noël, à ce soir, parce qu'ils trépignent d'impatience d'ouvrir les cadeaux qui sont déjà sous le sapin. Ils se demandent quel est le plus grand, pourquoi il est si grand et tout et tout. Et puis on a essayé de dire qu'on allait faire ça le 25, mais bon, on a abandonné la partie et on va faire ça ce soir, parce qu'on a cette envie presque irrépressible d'ouvrir des cadeaux, ouvrir. Il n'y a pas seulement les cadeaux que l'on ouvre à Noël, il y a aussi, je trouve, d'une certaine manière et dans toute la société, une manière d'ouvrir les cœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est quand même une période pour l'ensemble de la société, qu'on soit chrétien ou pas, où on ouvre les cœurs de manière quand même spéciale. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Là, la RTS a fait durant toute la semaine une action cœur à cœur dans toute la Suisse romande, où on se rend compte que les gens sont plus enclins, ou plus prêts finalement à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir aux autres. Et puis ça, je trouve que c'est assez beau de constater qu'il y a des fruits de ce que j'appelle l'esprit de Noël qui sont vraiment largement répandus. Ouvrir nos cœurs. Un deuxième mot qui me revient à l'esprit quand je pense à Noël, c'est l'idée de réunir. Alors là, j'ai mis quelque chose de très nostalgique, c'est les marchés de Noël. Ça n'existe plus vraiment cette année, hein, donc on est en train de s'adapter. Mais par contre, il y a cette volonté qui est quand même assez forte de réunir. Là, dans les réunions, d'habitude, il y a le marché de Noël où on se réunit, où les gens prennent le temps de discuter. Tout à coup, il y a tout le monde qui a plus de temps, même s'il y a plein d'achats à faire et tout, on prend quand même le temps de s'arrêter, de boire un vin chaud, d'avoir ce temps de se réunir, là en l'occurrence autour d'un sapin. Pour nous, ces deux mots, ouvrir et réunir, ils sont vraiment condensés dans Jésus, dans une personne. Ils ne sont pas condensés dans un événement en particulier, ils sont vraiment condensés dans une personne qui est venu, et puis ça c'est la magnifique fresque que Yann a réalisée pour nous, qui nous le montre bien avec ce Jésus dans une crèche qui réunit déjà à sa naissance des personnes autour de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il commence par réunir du monde. Il commence par fédérer des personnes autour de lui, tout bébé qu'il est. Et cet esprit d'ouverture et de réunion, comme je l'ai dit, il se répand, même dans la société et même dans des endroits qui sont improbables. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette image-là, mais on a fêté il n'y a pas longtemps le centenaire de l'armistice, de la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a eu à un moment donné, un moment fort dans ce conflit armé, ce qu'on a appelé la trêve de Noël, où d'un côté, un chanteur allemand a commencé à chanter un chant de Noël. D'ailleurs, on en aura un en fin de culte, paraît-il. Et ce chant de Noël a été entendu, parce qu'ils étaient assez proches les uns des autres, en train de guerroyer. Il a été entendu de l'autre côté. Et simplement, ce moment-là a provoqué quelque chose d'extraordinaire, un arrêt des combats par la présence, finalement, de cet esprit de Noël, de réconciliation, de paix, qui est tombé là. Donc on le voit, la venue de Jésus, on voit souvent les avatars, puis on est souvent critique en tant que chrétien parce que c'est la commercialisation, c'est tout ce qu'on veut, puis on critique. Il y a aussi positivement pris des effets tangibles et qui sont extrêmement positifs dans la vie de nos contemporains et dans nos vies à nous. Il y a quand même une réunion dans cette période de Noël, le fait de réunir qui est quand même assez exceptionnel. Et pourtant, on l'a vu, et puis Claudia nous l'a rappelé, hein, ces réunions, elles ne coulent pas de source, mais ces réunions, peut-être parfois, elles sont un peu compliquées à vivre. Et puis, il y a une phrase qui m'a frappé en préparant aussi cette série sur la fraternité, c'est que la société qui est toujours plus mondialisée d'une certaine manière, elle nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. La société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Donc on a besoin d'ouvrir et de construire toujours cette notion et cette réalité de fraternité entre nous. Jamais nous n'avons été autant en connexion les uns avec les autres. Et même cette pandémie nous le montre. Hein. On est tous à la même. On est tous à la même, qu'on soit dans tous les continents, on est tous avec la même priorité en même temps, ce qui est quand même assez historique, je pense. Tous les pays sont focalisés sur un seul et même problème. Et pourtant, on le voit bien avec le vaccin, on a besoin de construire cette fraternité. Parce que même si on est tous concernés par le même problème, dès qu'il y a une solution, ça s'éparpille de manière assez rapide. Où les plus riches s'accaparent, nous, les meilleures doses et les plus rapidement possible. Donc là, on voit, même qu'on est tous liés, c'est un combat de se dire qu'on va consacrer des fonds à ce que le vaccin soit accessible pour tous. Construire la fraternité. Et là, je crois que notre foi chrétienne a quelque chose de clair à nous dire, et c'est ce que nous allons méditer ce matin. Pas par un texte spécifique de Noël, vous allez voir, un texte qu'on a déjà pu méditer avec quelques-uns ce jeudi soir en silence, et je le reprends ce matin. On le trouve dans les Actes des Apôtres, qui est un livre qui suit l'évangile de Luc, où ce n'est plus les actions de Jésus qui sont mises en avant, c'est les actions justement de ses apôtres, ses disciples, qui sont mis en route par Jésus et qui, dans ce livre-là, prennent leurs responsabilités. Et nous, en tant que disciples X, Y, beaucoup plus loin, on est toujours dans la même ligne, finalement. Il y a Jésus qui nous a montré le chemin et nous sommes ses apôtres, finalement, ses disciples, en tout cas, qui suivons ce chemin-là. Alors, c'est dans le chapitre 10, verset 34, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. « Alors Pierre prit la parole. En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé. Le troisième jour, il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il se soit relevé d'entre les morts. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre était en train encore de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Car il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Amen. Ouvrir et réunir, pour nous en tant que chrétiens, et Claudia l'a rappelé dans son introduction ce matin, c'est de se réunir autour d'une personne et autour d'une œuvre, l'œuvre de la croix. Cette mort et cette résurrection qui donne la vie et qui nous réconcilie. C'est le message de Noël, mais c'est aussi, et l'un implique l'autre, c'est le message de la bonne nouvelle, de l'Évangile. En somme, on dit toujours qu'on est évangélique, qu'on proclame l'Évangile. C'est quoi? C'est ce que nous voulons lire. C'est cet Évangile de réconciliation entre Dieu et les hommes, sans aucune distinction. C'est l'Évangile de réconciliation pour tous les hommes, toutes les nations, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre identité, quelle que soit la nation à laquelle nous appartenons. Et c'est ça ce message de Noël qui garde une force impressionnante. Et ça reste, et ça doit rester, le centre de notre proclamation à nous, croyants, qu'on soit à Nyon, à Singapour ou à Washington. C'est cette bonne nouvelle de la réconciliation. Et elle est attestée, cette bonne nouvelle, par un immense boum. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce texte, c'est l'Esprit Saint qui tombe pour tous ceux qui écoutent la parole. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, ça devait être assez exceptionnel. Hein. De voir que Pierre parle et tout à coup, bim, l'Esprit Saint tombe sur tout le monde et tout le monde a des effets dans son corps. Tout le monde comprend que cette parole devient une parole avec un P majuscule, une parole qui fait effet, qui rend vivant. Ils entendent le discours, la parole de Pierre, et cette parole devient vivante en eux lorsque l'Esprit Saint leur tombe dessus. D'habitude, on n'aime pas trop ce qui nous tombe dessus. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est plutôt des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. Il y a un truc qui m'est tombé dessus, c'est jamais tellement bien. Et surprise, ça peut même être le cas quand l'Esprit Saint nous tombe dessus. On peut ne pas être très très à l'aise quand l'Esprit Saint nous tombe dessus. On peut se dire, punaise, il y a vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. Et puis se demander comment on va réagir. Parce que lorsque ça nous arrive, il y a des lignes qui bougent. Il y a des changements qui se produisent. Et naturellement, l'être humain, il n'aime pas les changements. L'être humain, il aime bien ce qui est stable, ce qui est vérifiable, ce qui est planifiable à long terme. L'être humain, il n'aime pas les booms du Saint-Esprit qui viennent sur sa vie puis qui commencent à tout troubler l'agencement bien précis qu'il avait donné à sa vie. C'est exactement ce qui se passe là, non seulement pour les païens qui écoutent la parole de Pierre, mais c'est aussi et peut-être surtout ce qui est en train de se passer pour Pierre lui-même. Pierre lui-même, le grand apôtre, il est en train de se ramasser le boum du Saint-Esprit en pleine figure à ce moment-là. Il n'est pas mieux préparé que les païens à recevoir ce boum du Saint-Esprit. Et ça, c'est super interpellant. Parce que si on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé avant, Pierre, il est envoyé par l'Esprit Saint pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Et puis, il commence par découvrir des territoires inconnus pour lui. Et puis, il est amené à rencontrer un homme qui s'appelle Corneille, qui était un Romain, finalement, en tout cas pas un Juif, un non-craignant Dieu. Et puis, Dieu lui montre, à travers une vision, une nappe remplie d'aliments que normalement, il n'a pas le droit de manger. Puis, Dieu lui dit dans cette vision, « Pierre, mange ces aliments-là. Tu as le droit. » Puis, il lui dit, « Non, là, je ne suis pas en train de t'écouter, toi, là. C'est peut-être moi qui me fais des films, quoi. » Puis, par trois fois, Dieu lui dit, « Pierre, mange. » Et il finit par manger en vision, ce qui prépare le terrain à cette rencontre avec Corneille qu'il n'aurait jamais dû rencontrer normalement. D'habitude, c'était assez clair, on n'allait pas les uns chez les autres de cette manière-là. Et Dieu le pousse à aller, il prend la parole dans cette maison, c'est le discours qu'on vient de lire, et à la fin de cette prise de parole, il y a ce boom du Saint-Esprit qui finalement fait exploser tous les cadres et toutes les limites que la religion avait pu imposer. Dans notre système de croyance en tant que chrétien, ces barrières, elles n'existent plus. Tous réunis, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un slogan, c'est simplement l'œuvre de l'Esprit-Saint et l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous, croyants. Il y a donc deux conversions dans ce magnifique chapitre. Il y a la conversion des païens qui se tournent vers Dieu et qui découvrent pleinement qui est Dieu. Et il y a la conversion de celui qui était déjà en connexion avec Dieu pour s'ouvrir encore plus largement et ouvrir clairement cette notion de famille de Dieu. Ouvrir clairement les portes de son cœur, ouvrir clairement finalement le cadeau que Dieu en réserve, non pas simplement pour un peuple élu, mais pour tous les peuples élus. Ça n'empêche pas qu'il y a des racines au peuple de Dieu, ce n'est pas pour nier la préexistence d'Israël, le fait de la révélation à Israël. Mais par contre, si on n'a pas compris cet élargissement, on n'a pas compris la bonne nouvelle. Et c'est ce que Dieu montre à Pierre à ce moment-là. Il y a une réalité plus large où on est tous réunis autour de la croix. Et ça nous ouvre quand même les yeux de manière assez phénoménale et ça a des conséquences assez phénoménales pour nous. Parce que j'ai mis sous forme de résistance, en tant que croyant, en tant que chrétien, je refuse de choisir. Je refuse de choisir quoi ? De juger celui qui est en face de moi. Je refuse de choisir et de juger celui qui est en face de moi parce que je l'accepte tel qu'il est. Et ça, c'est vite dit, mais ça veut dire qu'on ne choisit ni un noir ni un blanc, ni un homme ou une femme, ni un politicien de tel ou tel bord. Le chrétien ne choisit pas, il considère l'autre comme un frère ou une sœur. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il ne se pose pas la question de savoir si je veux des arguments ou des bons arguments, de savoir si c'est bien ou faux la manière dont j'agis. Ce que je comprends de la parole, c'est qu'on n'a pas à choisir, tout simplement parce qu'il s'est passé cela à Césarée chez Corneille. Il s'est passé que Dieu a donné son onction sur tout le monde et que Pierre a compris que cette onction était valable pour tout le monde. Et puis, ça m'interpelle parce que si je regarde juste ce qui se passe chez nos voisins américains actuellement, où on voit les chrétiens, même entre eux, qui ont réussi à se diviser d'une force assez incroyable, juste parce qu'ils n'étaient pas du même bord politique, ce que je suis en train de vous dire là, ça a une actualité qui est assez phénoménale, parce que peut-être qu'en Suisse, on est encore un peu préservé, mais on a exactement les mêmes ressorts en nous. Il ne faut pas croire qu'on est tellement différent de nos voisins américains. Si on nous chauffe un peu, on a exactement les mêmes éléments qui montent en nous. Et là, on a besoin d'avoir cette dose particulière d'Esprit Saint, cette onction qui vient en nous, et en disant, on doit résister à ces éléments-là qui montent en nous, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et qu'il a voulu ce boom qui tombe sur tout le monde. Donc c'est pour ça que pour nous, je l'ai dit dans une autre prédication, c'est un non-sens complet d'être raciste, par exemple. C'est un non-sens complet de vouloir mettre des classes entre différents humains. C'est un non-sens parce que c'est inconcevable dans le plan de Dieu pour l'humanité. C'est inconcevable dans le plan de Dieu pour nous. Cette diversité que l'on aime bien et que l'on essaye de vivre, par exemple, dans notre Église, cette diversité, elle est clairement voulue par Dieu et Dieu s'en occupe. Dieu la prend en charge et Dieu nous demande de faire de même. De nouveau, ce n'est pas un programme qui nous dit « nous voulons être une Église diverse », c'est plutôt nous qui nous rendons disponibles pour nous dire « oui, on va essayer de faire notre mieux pour vivre cette diversité tous ensemble ». En étant réunis ici à Nyon, comme étant un petit microcosme de ce que peut être l'Église de manière générale. Ce n'est pas un plan du Conseil où on se dirait que stratégiquement on va aller dans le sens de la diversité, c'est simplement une acceptation de ce que nous croyons être juste à faire et à vivre en tant que communauté. Ça change la perspective, hein. C'est Dieu qui met les priorités, puis nous on essaye tant bien que mal les suivre. Mais là, il y a une forte conviction pour se dire que ce qu'on doit suivre là est assez clair et assez juste. On ne choisit pas et on respecte cette diversité. La foi chrétienne vit et assume une résistance forte à cette manière très actuelle de vouloir tout scinder, de monter les communautés les unes contre les autres. C'est très très fort, ça s'appelle le communautarisme, et je crois que nous, et particulièrement quand on est religieux, ou en tout cas quand on est dans un système de croyances, on a ce risque de vouloir se considérer soi-même comme étant d'une certaine manière pure et de se scinder du reste de la société. Ça nous est arrivé. Puis, il y a toujours ce risque en nous. Je crois que cette image nous aide vraiment à penser différemment. Cette ouverture radicale, cette réunion radicale qui est voulue par Dieu et à laquelle nous sommes appelés aussi à contribuer avec notre statut de témoin. Dieu nous appelle, nous sommes témoins de cela, et nous devons porter ce témoignage là où nous sommes. Et c'est marrant de se voir qu'effectivement, dès le départ, les horizons autour de la crèche sont assez différents. Dès le départ, dès la naissance de Jésus, autour de la crèche, vous avez qui ? Vous avez des bergers qui sont les moins que rien de la société, qui sont les marginaux, ceux qui sont un peu sur les collines au loin, les sauvages qui ne devaient pas sentir très bon. Et puis, des rois mages. Les rois mages, on est quasiment sûr que ce n'était pas des juifs. On est quasiment sûr que ça pourrait être les musulmans ou les bouddhistes actuels. Et pourtant, une capacité d'attraction de l'enfant Jésus qui se manifeste là, autour de la crèche. C'est-à-dire que cette fresque, elle est puissante, hein, que tu as fait, Yann, de se dire qu'il y a cette capacité de réunion, même des personnes d'autres religions, autour de la crèche, autour de Jésus. Et comme je l'ai dit dimanche passé, avec l'amour fraternel, ces éléments-là d'ouverture et de réunion sont des éléments à travailler et à retravailler tous les jours que Dieu fait. Parce que, comme pour l'amour du prochain, il y a fortement notre tendance à séparer les choses, à vouloir scinder les choses. On doit tous les jours travailler à bannir cette peur qui divise, qui enferme, qui fait rester sur place, qui fait rester chez soi. Et particulièrement lorsqu'on est en période de coronavirus. On a une tendance à se replier sur soi, on est même invité à le faire. Donc notre résistance à nous ouvrir et à garder cette réalité de la réunion, elle est d'autant plus mise à contribution. Et pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est tombé sur les païens et sur Pierre à Césarée. Et c'est assez drôle que de voir Pierre rester encore quelques jours chez Corneille. Il passe encore quelques jours chez lui alors que c'était interdit. Et puis il doit bien se dire à un moment donné qu'il va falloir qu'il rentre chez lui à Jérusalem. Et c'est très intéressant de voir les quelques versets qui suivent le retour de Pierre à Jérusalem, parce qu'on se rend compte que ses propres coreligionnaires, ses amis, ses disciples, ils l'accueillent non pas les bras ouverts, mais ils l'accueillent comment ? En l'engueulant. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas chez les païens ? Qu'est-ce que tu es allé faire dans la maison de ce Corneille ? Alors viens vers nous et tu vas nous expliquer. Là, Pierre, il ne s'est pas démonté. Il leur a expliqué. Et son explication leur a permis aussi de comprendre que la parole, c'était juste qu'elle aille plus loin que leur cercle à eux. Mais c'est très intéressant de voir que la première réaction des croyants, hein, ça n'a pas été une réaction où ils ont accueilli à bras ouverts cette nouvelle, ils ont d'abord demandé des explications, d'abord la méfiance. Et je crois que Dieu nous appelle vraiment à aller au-delà de ce premier sentiment, de ces premiers sentiments, pour aller au-delà et nous ouvrir résolument en décidant que c'est dans cette direction-là que nous allions regarder. Et puis là, on retrouve encore une fois cet écho au message de Noël, où Pierre dit qu'il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix. Et je crois que c'est vraiment ça, la paix, par Jésus-Christ. C'est lui qui est Seigneur de tous. Et les anges, qu'est-ce qu'ils chantent aux bergers ? Et soudain, ils se joignaient à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait quoi ? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Or, il y a deux choses. Déjà, qu'il nous souhaite la paix entre nous. Puis, deuxième chose, il prend plaisir en nous. Ça, c'est un message qu'on n'a pas très souvent l'habitude d'entendre dans les églises, mais il prend plaisir en nous. C'est le message qu'il transmet à Noël quand même. Ce n'est pas qu'il nous considère. Des fois, il nous considère comme des pécheurs, puis on est un peu abasourdi. Mais le message de Noël, là, il nous souhaite la paix entre nous et il prend plaisir en nous. Et je termine juste par un témoignage, alors cette fois personnel. Cette fois, ce ne sera pas une question de bricolage. Là, j'ai fini, c'est bon. Tout est en ordre. Mon carrelage est magnifique dans la cuisine. Hein, donc, j'ai réussi. Je suis très fier de moi. Bravo. Mais c'est par rapport à cette question d'ouverture et de rassemblement où on est tous réunis. Dans une autre vie, j'étais animateur jeunesse dans des églises baptistes qui étaient établies et dans le Jura suisse, dans des petits villages entre 1200 et 1500 habitants. Et puis, dans la même association d'églises, je ne sais pas par quel miracle on était mis ensemble, il y avait beaucoup d'églises baptistes qui venaient de la région parisienne qu'on appelle le 9-3 ou la Seine-Saint-Denis. C'est souvent les églises, enfin les régions dont on parle au JT de 20h, où il y a des émeutes, où il y a des problématiques sociales qui sont importantes. Par miracle, parce que c'est quand même un miracle, il s'avère qu'on était dans la même fédération d'églises, et puis moi j'étais assez actif pour organiser des grands rassemblements jeunesse de 200, 250 personnes, ou bien des camps de ski. Et ça arrivait fréquemment qu'il y ait plusieurs, on organisait chaque fois un ou deux quarts de ces personnes de banlieusards qui venaient en Suisse, parce que c'est nous qui organisions leurs invités en Suisse. En l'occurrence, c'était à Ovrona. Et puis déjà, le car, il mettait 3 heures pour faire l'étron, donc le bas de la vallée jusqu'à Ovrona, parce qu'il avait de la peine à prendre les virages. Donc, c'était toute une expédition. Donc, il venait dans un univers complètement inconnu. Alors, je vous explique le décalage qu'il y avait déjà quand on voyait ces différents jeunes arriver comme ça, avec leur baggy, un habillement complètement différent d'une autre. Et puis, pour eux, puis pour nous aussi, de les voir comme ça, il y avait un décalage phénoménal. Donc, on partait de là, ou bien de là, c'est égal, il n'y a pas de hauteur, mais de décalage phénoménal, le premier jour du camp, c'était assez impressionnant. Et je garde un souvenir d'un dernier jour de camp où les 200 personnes en étaient là, bras dessous, à chanter la même louange du Seigneur à la fin du camp, le lundi après-midi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de fort d'Esprit de Dieu qui réunit des banlieusards du 9-3 avec des jurassiens d'un petit village de 1200 habitants. Je me dis, il y a peu d'endroits comme ça, même dans la société, à part si on est réunis autour du Christ. Alors, je termine avec ça, c'est du vécu, c'est du concret, pour vous dire, effectivement, cette réunion, elle est possible et elle est voulue par Dieu. Amen. Mmh.